L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.
Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Rosenthal. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Rosenthal, vous êtes journaliste et vous avez été reporter de guerre pendant plus de 30 ans à l'AFP, à l'agence France Presse. Vous avez raconté vos souvenirs de guerre, de reporter de guerre, et ils sont nombreux dans un livre très intéressant intitulé « C'est toujours la vie qui gagne », paru aux éditions Helvetius. Un livre qui évoque bien sûr les principaux conflits que vous avez couverts au cours de votre vie professionnelle. Et puis il y a aussi des cartes dans l'ouvrage, c'est assez bien fait parce que comme ça on peut se repérer aussi en fonction du texte et de ce que vous racontez. Alors vous commencez le livre par la guerre au Tchad au début des années 80. Comment travaillez-vous déjà à cette époque pour couvrir un conflit?
D'abord le livre il est chronologique, donc oui. Ma première couverture d'un conflit c'est le Tchad effectivement à la fin de 1980, début 1982. À cette époque-là, il y avait très peu de communication et encore moins dans ce genre de zone en Afrique. Les choses ont énormément changé, donc à l'époque c'était compliqué parce que N'Djamena n'avait plus du tout de communication. N'Djamena c'est la capitale du Tchad. Il n'y avait même plus de blanc, si l'on peut dire, à N'Djamena, c'est-à-dire plus aucune organisation internationale, ni ambassade, ni entreprise avec des expatriés. Les derniers, c'était des pères blancs qui ont quitté la ville, et donc il n'y avait plus de bac, parce qu'il faut traverser avec un bac vers le Cameroun, qui est la frontière. De l'autre côté, la ville s'appelle Kousseri, et donc à cette époque-là, il fallait prendre la barque pour traverser, donc pour aller sur place, voir ce qui se passait entre différentes factions qui se disputaient la ville, revenir avec la fameuse pirogue, prendre une voiture, faire en gros 100-150 km de piste pour arriver dans une ville qui s'appelle Marwa. Et là, il y avait un telex dit aveugle à l'époque.
Voilà, c'est ça en plus.
Donc c'est des telex où ça tape une bande, mais où on ne voit pas ce qu'on tape.
Ce n'est pas les moyens performants qu'on a aujourd'hui, c'est vrai. Enfin,
donc,
en tout cas, plus facile.
Je le disais, la première fois que j'ai vu un téléphone Inmarsat, et c'est en 1994 à Grozny, en Tchétchénie, où un collègue de France Inter, aujourd'hui ailleurs qu'à France Inter, qui s'appelle Nicolas Poincaré, avait le premier téléphone Inmarsat que j'ai pu utiliser. Donc entre 82 et 1994, en 12 ans, le monde de la communication pour un journaliste en terrain de conflit ou de guerre a complètement changé.
Et quelles étaient vos sources d'information pour recueillir l'information en fait?
Les gens, tout simplement.
Les gens,
on va sur le terrain et on demande et puis on voit les responsables. En général, ils ont le temps. Parce qu'on peut pas dire que là, la vie s'écoule trépidante, si ce n'est qu'elle s'écoule au fur et à mesure d'avancer, de reculer, de front plus ou moins fictif entre des bandes armées. Mais les responsables, eux, sont tout à fait disponibles. La plupart du temps, ils vous reçoivent. Ils sont très contents de vous recevoir. Parce que le premier effet d'un journaliste d'agence dans ce genre de conflit, c'est que sa dépêche est reprise sur la radio. Or, la radio est le seul moyen d'écoute de masse dans beaucoup de régions du monde. Donc, tout d'un coup, ils existent. Et c'est une énorme responsabilité pour le journaliste de son côté, puisque s'il dit que le front a avancé de 100 mètres, tout le monde croit que le front a avancé de 100 mètres. S'il dit que ça a reculé de 100 mètres, et ça a des conséquences énorme. Extrêmement importantes. Mmh. Donc c'est très compliqué. Donc il parle avec bonheur, comme toujours dans les conflits, puisque les médias sont un des moyens de gagner aussi une guerre, une bataille politique.
Alors quand on part sur des terrains comme ça, des guerres, des conflits, on a souvent un fixeur. Alors c'est quoi un fixeur ?
Un fixeur, c'est en général un journaliste local ou quelqu'un qui connaît très bien le terrain localement et qui va vous guider, qui connaît les gens, donc qui va vous les faire rencontrer beaucoup plus rapidement. Et éventuellement, c'est un interprète. Donc au Tchad, pas besoin vraiment d'interprète puisqu'il parle français, mais dans beaucoup d'autres régions, besoin de l'interprète.
Alors durant toute votre carrière de reporter de guerre, vous aviez toujours avec vous un sac de sport bien utile. Expliquez-nous l'utilité de ce sac de sport.
Quand vous partez quelque part, vous savez jamais quand vous revenez. Donc il vaut mieux avoir avec soi, on va dire, 48 heures d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, il faut prendre les médicaments qu'on a l'habitude de prendre et les avoir avec soi, parce qu'on ne sait pas. Deuxièmement, avoir un tout petit peu de réserve de nourriture, des choses concentrées qui vous permettent permettent de tenir facilement et qui prennent pas beaucoup de place. Bananes séchées, bœuf séché, boîte de thon éventuellement, petits biscuits.
Et un moyen pour avoir de l'eau potable aussi.
Exactement, donc un petit filtre catalyse, si possible, pour avoir de l'eau propre, puisque nous sommes dans des régions où malheureusement, pas que pour nous, mais pour beaucoup de populations, l'eau n'est pas d'une très bonne qualité. Ça veut dire avoir éventuellement un livre, une radio, les piles pour la radio, lampe de poche absolument indispensable. Pour ceux qui veulent leur Walkman, ça commence à prendre la place. Voilà. Faut que le sac soit petit quand même.
Et pas trop lourd. Soit...
Voilà.
Et voilà. Alors quelques années plus tard, après ce conflit au Tchad que vous avez couvert, vous êtes envoyé spécial permanent en Europe de l'Est, pour l'AFP toujours, et vous êtes notamment en Roumanie, et vous racontez dans le livre qu'au milieu des années 80, c'est l'ère du dictateur Nicolae Ceaușescu qui fait justement régner la terreur. Quel pays vous avez découvert, vous, Bertrand Rosenthal?
Un pays extrêmement triste par la tristesse des gens, mais aussi parce qu'il manquait, de tout. Et donc, c'est un pays qui m'a fait beaucoup de peine, parce que en tant que Français, c'est le pays le plus francophone de l'Europe de l'Est qui tient à ses relations francophones. On le rencontre chez tous les intellectuels. Il y a une relation profonde avec la France dans la population. Et donc, c'était triste de voir toute cette intelligentsia, si elle voulait vivre, d'accepter ce type de régime. Quant aux autres, s'ils voulaient être dissidents, la dissidence en Roumanie était assez terrible comme marginalisation et comme surveillance. Avec un point particulier, c'est qu'en général, les dissidences dans les pays communistes étaient soutenues par les Occidentaux. Mais manque de bol, les Occidentaux voulaient jouer la Roumanie contre l'Union soviétique. Et donc, du coup, acceptaient du régime roumain ce qu'ils n'acceptaient pas d'autres régimes communistes.
Et justement, sur la liberté de parole, notamment, on lit pas normalement à la radio parce que ça passe pas bien, mais là, je vais quand même lire une phrase de votre livre. En page 33, vous dites « L'usage de la liberté de parole est une condamnation à la pauvreté. »
Exact.
Parce que vous en avez rencontré justement des intellectuels, des artistes aussi qui étaient muselés, et en tout cas il y avait un système très vicieux pour
quand on est opposant, on perd son travail. Et comme ce sont des régimes qui possèdent l'ensemble de l'économie et de l'administration, on ne peut pas retrouver de travail. On peut dire dans d'autres pays, disons, où il y a une entreprise privée, où il y a un marché privé, il y a moyen d'avoir du travail. Mais là, tout appartient à l'État, donc tout le travail appartient à l'État.
Alors vous avez rencontré Nicolae Ceaușescu, quel personnage était-il et quelle impression vous a-t-il laissé?
Je l'ai rencontré à deux reprises. On n'a pas beaucoup discuté parce qu'il ne parlait pas vraiment aux journalistes étrangers. En fait, c'est un homme qui était rusé. C'était pas le génie des Carpates, comme on voulait dire, mais c'était un homme rusé. C'était un homme qui était cordonnier avant, qui est monté, qui vient du peuple, et qui était entouré, c'est là où la chose a été la plus terrible, d'une femme qui était vraiment une folle. Et là, il y avait grand danger, c'est Elena Ceaușescu. Mmh. Et qui, effectivement, jouait un rôle extrêmement important
dans le pouvoir.
Elle avait beaucoup
système,
de pouvoir. Mmh. Lui, je peux pas en dire beaucoup plus. Le fait qu'il soit rusé, malin, a fait qu'il a joué à fond sur l'idée qu'il pouvait représenter pour les Occidentaux un moyen de pression sur le camp communiste et en particulier sur l'Union soviétique, il en a joué énormément. Alors qu'il était totalement pris à la gorge par les pays communistes et l'Union soviétique, puisque tout le pétrole arrivant par exemple en Roumanie, c'était du pétrole soviétique. Toutes ses relations commerciales fondamentales étaient avec le camp communiste. Donc il y a eu tout un jeu de rôle qui a servi à tout le monde et à lui en particulier, au nom d'un nationalisme roumain qui, vis-à-vis de sa population, est une chose qui comptait aussi.
Vous avez subi des intimidations durant cette période où vous étiez en Roumanie?
Oui et non. Oui, parce qu'on sait qu'on est surveillé, et donc je le raconte.
Vous racontez, oui.
Je raconte parce que c'était drôle d'une certaine façon, puisqu'ils veulent montrer qu'ils nous surveillent. Ils cherchent pas à cacher qu'ils nous surveillent. Ils veulent montrer qu'ils nous surveillent. Alors, dans tous les endroits où j'allais, il y avait une Dacia jaune. La Dacia, c'est ce qui était fabriqué à Cluj, c'est la Renault 12 de l'époque. Donc aujourd'hui, Renault continue de fabriquer en Roumanie, comme tout le monde le sait. Et donc, bizarrement, il y avait toujours des Dacia jaunes. Et un jour, je me suis plaint au ministère des Affaires étrangères. Enfin, pas plaint, mais j'ai fait la remarque. J'ai dit, mais pourquoi elles sont toujours jaunes? Et la réponse était très drôle. Et d'habitude, il n'y a que les Américains qui se plaignent. J'ai pas encore compris la réponse.
Enfin, c'était une réponse.
Mais c'était
leur réponse.
Une autre fois, j'ai été convoqué. En fait, c'était une invitation à un déjeuner absolument formidable pour me dire que sur certaines choses, je devrais en faire un peu moins, il s'agissait essentiellement de la minorité hongroise de Roumanie. C'était donc un problème nationaliste, alors que tout ce que je pouvais raconter, et qui n'était pas très joli, sur ce qui se passait dans le pays, ne semblait pas avoir d'effet sur eux.
Alors vous avez, il y a beaucoup de choses dans le livre, on ne va pas pouvoir tout dire en un quart d'heure, donc il faut lire le livre, bien sûr, j'invite les gens à l'acheter. Vous avez été également directeur du bureau de l'AFP à La Havane, et vous avez côtoyé Fidel Castro, qui avait une passion pour les fromages français.
Exact. Exact.
Ça, c'est pour l'anecdote, bien sûr.
Oui, l'anecdote, mais c'est intéressant parce que c'était un bon vivant. Et donc, il aimait le fromage français, il aimait le vin aussi, il aimait faire la cuisine, il aimait la partager.
Et il était très tactile aussi, vous disiez, vous racontez dans le livre.
Il était assez tactile, il aimait bien toucher les gens avec ses doigts. Mais,
le chef d'État, l'homme d'État, il était, comment vous l'avez perçu, vous ?
Alors lui, en revanche, était sans doute un génie politique. C'est un dictateur, mais c'est un génie politique. Parce que il a réussi avec un pays de 10 millions d'habitants à le mettre au centre de la géopolitique internationale pendant une trentaine d'années. Ce qui est absolument phénoménal quand on voit ce que représente géographiquement et militairement Cuba.
J'ai relevé aussi une phrase dans votre ouvrage, puisque les journalistes n'étaient pas toujours très bien vus. D'ailleurs, avant vous, il y avait eu deux correspondants de l'AFP qui avaient été renvoyés dans d'autres pays. Enfin, ils avaient été expulsés, en fait. L'anecdote qui circulait, la blague qui circulait dans le milieu journalistique à l'époque pour les journalistes qui étaient en poste à La Havane, c'était à La Havane, tu écris un papier, donc un article, et quand tu appuies sur la touche Enter de l'ordinateur pour l'envoyer, un billet d'avion s'imprime. Parce qu'en fait, on éjectait les journalistes assez rapidement, c'est ça ?
Oui, il y en a eu beaucoup qui ont été expulsés.
Alors, quelques années plus tard, vous couvrez le conflit en Tchétchénie, en 1995. C'est un conflit très, très dur. Dans votre livre, vous comparez Grozny, la capitale tchétchène, aux images des documentaires tournés lors du débarquement allié en France, à Caen, puisque vous êtes normand, je crois, en juin 1944. C'est épouvantable comme spectacle.
Et le spectacle était épouvantable. C'était une ville de 400 000 habitants en ruine, Grozny. Du moins, toute sa partie moderne. Parce que, bien sûr, ça a été construit à partir des années 50 en haut, on a construit des barres d'HLM, enfin, ou des immeubles de 4-6 étages dans tout le centre-ville, et ces immeubles étaient totalement défoncés, bombardés avec des câbles électriques qui pendent, des gravats partout, et ça m'a rappelé, moi, les images qu'on me montrait à Caen, quand j'étais petit, de la ville de Caen, après les bombardements, suite au débarquement.
Oui. On manquait de tout, à cette époque-là, à Grozny.
Alors,
la population, comment vivait-elle, en fait ?
Alors, très très mal,
ouais.
Et d'ailleurs, l'essentiel de la population de Grozny, à part les combattants, avaient fui dans leur famille, dans la montagne, etc. Ce qu'il restait à Grozny, fondamentalement, c'était les Russes qui étaient installés, qui n'avaient pas de famille et pas de montagne où aller. Donc les Russes bombardaient essentiellement des Russes. À part et ça, il y avait les rebelles tchétchènes qui étaient environ 400 000. Hein.
Et vous avez été pris dans une sorte de souricière, en fait.
Oui, avec Boris Bassors, on voulait, il y a eu une matinée d'accalmie, et on a dit on va aller au palais présidentiel voir ce qui s'y passe. Donc nous sommes bien allés au palais présidentiel, mais après 2 heures d'accalmie, les bombardements ont repris, on était coincés dans le palais présidentiel, tout simplement.
Alors il y a beaucoup d'autres épisodes, hein. Vous parlez de l'Irak, d'Haïti, vous avez été au Mexique aussi, et moi je vais m'attarder sur la Grèce, puisqu'en 2012... vous découvrez une Grèce en faillite et vous rencontrez certains habitants touchés par la crise économique, par la misère. Vous expliquez tout ça dans l'ouvrage. Vous découvrez aussi une belle solidarité.
Oui, les gens ont retrouvé leur famille et la solidarité parce que ça allait trop mal. Et donc, comme tous les salaires ont été baissés, toutes les retraites ont été baissées, tout a été baissé, les gens ont été obligés de se retrouver entre eux pour vivre, voire survivre. Plus d'emploi, et c'est un spectacle. Ils ont du courage, enfin, je veux dire, c'est très courageux, et en même temps, c'est très triste, parce qu'on voit que c'est un pays formidable, avec évidemment, pour nous, avec un passé extraordinaire, intellectuellement parlant, et on n'arrive pas à imaginer cette Grèce de pauvres, où on leur enlève tout, où la solution, c'est l'exil, c'est l'émigration. Combien il y en a en France, parce qu'on parle d'autres exils, mais on ne parle pas de l'exil de nombreux Grecs, et dans des secteurs extrêmement spécialisés. spécialisé. Il y a énormément de Grecs dans une université de médecine. Il y a énormément de Grecs chez les ingénieurs. Ils sont partis. Et il y en a qui veulent partir parce que la vie commençait à devenir insupportable. Mais je voudrais dire quelque chose quand même qui nous rapproche d'ici. La première fois que j'ai visité, il y a 3 ans, la rue principale de Saint-Livrade-du-Lot, ça m'a rappelé quelques villes en Grèce. Parce que quand on se promène dans la rue principale, on voit que 60% à 70% des magasins sont à louer ou à vendre. Exactement ce que moi j'ai vu en Grèce. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement. De même, quand on voit un carré du centre de Villeneuve-sur-Lot, on peut se poser la même question. Il y a une crise qu'on voit sans doute moins ici, mais qui n'est pas sans rappeler quelques éléments de cette crise terrible qui a frappé la Grèce.
Depuis quelques années, vous vivez dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que le bonheur est dans le Lot-et-Garonne?
Ah, mais moi j'y suis très très bien, j'y suis très heureux. Voilà, je regrette que...
Malgré les magasins à louer...
Oui, mais malgré la crise, je veux dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui vivent difficilement. Ce livre est aussi écrit pour dire... La guerre n'est jamais, jamais, jamais belle. Et elle est rarement, très, très rarement justifiée. Il y a d'autres moyens. Les gens aujourd'hui n'ont pas idée de l'horreur de la guerre. Pour tout le monde, des deux côtés, qu'on soit avec nos amis ou du côté des ennemis, on ne pense jamais, jamais aux dégâts que l'on fait de l'autre côté. On ne pense qu'aux dégâts qui existent de notre côté. Ce qui est normal. On s'occupe d'abord des nôtres. Mais quand on parle de guerre, il n'y a pas les nôtres et les autres parce que tout le monde trinque. Et moi, c'est aussi pour ça que j'écris, pour raconter quand même que c'est terrible et qu'il faut l'éviter.
Et c'est aussi pour ça que vous faites partie de la Ligue des droits de l'homme et que vous vous engagez pour la liberté et les droits de l'homme.
Oui, parce que sans liberté, on ne peut pas parler, et la parole, l'échange, le débat, c'est ce qui évite l'affrontement. Si on arrive à parler, à échanger, on évite l'affrontement.
Merci beaucoup Bertrand Rosenthal pour ce témoignage et pour ce livre. Donc je rappelle le titre, c'est Toujours la vie qui gagne aux éditions Helvétius. Merci beaucoup.
Merci.
C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.